السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous avançons dans ce mois de Ramadan et nous avons déjà parcouru la moitié du mois béni. Et dans quelques jours, nous allons inshallah nous approcher de al-ashr al-awakhir, de la dernière décade de ce mois béni de Ramadan 1436-2015. Ikhwani fillah, chers frères en islam, nous sommes tous conscients des fada'il, des vertus, des récompenses qu'il y a dans ce mois béni et des récompenses qui sont attrées à chaque ibadah, à chaque acte d'adoration qu'on accomplit durant ce mois. On a déjà entendu pas mal d'interventions, pas mal de bayan, de discours sur les vertus du mois de Ramadan, ne serait-ce deux vendredis, deux jumu'ah, et également deux dimanches, matin et après-midi. On a entendu différents savants parler de l'importance de l'investissement personnel dans ce mois béni. Ce qu'on vous propose, mes chers frères en islam, c'est un bilan. C'est que chaque personne fasse à ce moment précis et par la suite un état des lieux, un bilan de ce qu'il a déjà accompli durant ce mois et qui est certainement représentatif de sa conception du dîn et de sa relation avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, ce bilan, on va le faire de quelle façon? On va superposer trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la connaissance, le ilm, la connaissance que j'ai à propos du mois de Ramadan. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais à propos du mois de Ramadan, les récompenses, les vertus, les actions à accomplir. Le deuxième paramètre, c'est le temps qui passe. Ça, on ne peut pas y échapper. On est au 16e Ramadan, ça va, subhanallah, s'enchaîner, terminer très rapidement. Et le troisième paramètre, c'est le parcours. Le parcours qui est propre à chaque croyant et croyante jusqu'à cet instant T. Par rapport à ce que je connais du mois de Ramadan, par rapport au temps qui passe, qu'est-ce que j'ai produit, qu'est-ce que j'ai accompli comme bonne action. Et l'objectif, c'est voir réellement si nous donnons son haqq, nous donnons son droit au shahru Ramadan, au mois de Ramadan. Chers frères en islam, il est important de se remettre régulièrement en question. Il est important de réfléchir où est-ce qu'on en est, de faire le point, là par exemple après 16 jours de Ramadan, et pas uniquement de répéter, et pas uniquement de foncer et d'accomplir de façon intensive les mêmes bonnes actions qu'on a l'habitude d'accomplir tous les ans. Alhamdulillah, on voit pas mal de personnes durant le mois béni. Alhamdulillah, ils s'adonnent à la lecture du Coran, ils sont présents plus souvent dans les salats nawafil. Alhamdulillah, ce sont là de bonnes actions. Ce sont là des actions qui sont agréées, inshallah, par Allah Azza wa Jal. Mais tout en accomplissant ces bonnes œuvres, on ne doit pas se contenter uniquement d'une production d'efforts intensives durant le mois de Ramadan. On a besoin de voir est-ce que nous vivons un Ramadan de façon donc intelligente, est-ce que nous vivons ce qu'on appelle un Ramadan productif, ou alors c'est une saison de ferveur parmi tant d'autres qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et quand on parle de saison de ferveur, ça sous-entend que tout élan de ferveur, à un moment donné, va s'épuiser et va prendre fin. L'objectif, c'est, à travers le bilan qu'on va essayer de faire, que chacun doit faire maintenant et après y réfléchir, l'objectif est de déterminer de quelle façon est-ce que je suis en train de vivre ce Ramadan. Est-ce que le mois que je vis est un Ramadan qu'on appelle productif? Et justement, comme on a parlé du terme un Ramadan productif, en quelques instants, qu'est-ce qu'on appelle un Ramadan réussi? On connaît la définition de Hajj Mabrour. Quand on va au Hajj, on recherche tous cette qualité que mon Hajj soit agréé par Allah. On appelle ça un Hajj Mabrour. Mais qu'est-ce qu'un Ramadan maqboul? Qu'est-ce qu'un Ramadan accepté par Allah? Qu'est-ce qu'un Ramadan qui est réussi? Les savants disent qu'il y a trois choses à analyser dans notre rapport avec ce mois de Ramadan. Premièrement, ça c'est le plus simple, on doit analyser notre assiduité dans les actions du quotidien. Alors, quelles sont les actions du quotidien de Ramadan? On en a énuméré 8 ou 9. Il peut y en avoir plus, mais ce sont les actions qui reviennent le plus souvent. On doit faire en sorte de les retrouver régulièrement. Il n'y a pas un jour qui doit passer, qui doit s'écouler sans qu'on retrouve une de ces bonnes actions. Ces bonnes actions, c'est tout d'abord le carême, bien sûr, le jeûne, saoum. La prière accomplie en congrégation, à la masjid, en jama'at, pour les messieurs. La tahajjud, la prière de la nuit. La lecture du Coran. Le istighfar, demander pardon à Allah Azza wa Jal, les invocations, du'a et l'aumône, la sadaqa. Pas un jour ne doit passer sans que je retrouve au moins une partie de ces 9 actions ou l'intégralité de ces 9 actions dans ma vie. Il y a certaines actions, bien sûr, c'est obligatoire, le jeûne, les prières en congrégation, le tahajjud, le du'a, le istighfar, on doit le faire régulièrement tous les jours. Même la sadaqa en fonction de nos moyens. Donc ça c'est une première chose. Ça c'est, on va dire, c'est le béaba du croyant de le mois de Ramadan. L'accomplissement des bonnes actions. Deuxième condition, c'est construire et parfaire notre relation avec Allah Azza wa Jal à travers l'éthique du jeûneur. Alors qu'est-ce qu'on appelle, pour pas utiliser le terme, la philosophie, qu'est-ce qu'on appelle l'éthique? Qu'est-ce qu'on appelle l'éthique du jeûneur? Ben, le jeûneur, tout d'abord, c'est celui qui respecte ses engagements vers Allah. Quand je lis Allahumma inni asumu ghadan lak, je fais l'intention de respecter mon carême, mon jeûne jusqu'au iftar. Donc le respect de son engagement vers Allah, c'est déjà une qualité du jeûneur. Deuxièmement, le jeûneur, c'est celui qui apprend à être endurant dans les bonnes actions du quotidien. Ce qu'on appelle en arabe as-sabru ala ta'a. On donnera un exemple, la prière, salat al-tarawih. Des fois on est fatigué, d'accord? Au bout de 13, 14, 15 rakat, on n'en peut plus, mais on reste ferme. On dit que ça c'est pour Allah. Et je fais preuve de patience et d'endurance dans cette bonne action. Et enfin, troisièmement, le jeûneur, c'est celui qui apprend à être patient face aux tentations, face aux péchés, et en maîtrisant son nafs. Dans un exemple parmi tant d'autres, quand je contrôle mon regard à l'extérieur de la masjid, ou quand je contrôle ma langue et j'évite de dire n'importe quoi, mensonge, calomnie, médisance, ben je suis en train de contrôler mon nafs. Parce qu'il y a des fois, le nafs te dit, ben regarde, il y a des fois où ton nafs te dit, ben fais un commentaire sur telle personne qui entre, fais un commentaire sur telle chose, sur telle histoire qui s'est passée. Et là, tu te dis que je peux pas le faire, je suis en état de jeûne, je fais preuve de sobre, je résiste à la tentation de mon nafs. C'est ce qu'on appelle l'éthique, les qualités de sifa du jeûneur. Donc, le jeûneur doit les retrouver à chaque fois. On doit être capable de faire un copier-coller. On les voit, on retrouve et les reproduire plus tard. Et ça, on verra. Mais déjà, de les identifier. À chaque fois où j'ai pu respecter mon engagement, je dis, alhamdulillah, j'ai respecté mon devoir. Alhamdulillah, j'ai été patient dans les bonnes œuvres. Ne pas faire le tarawih comme ça, dire, il y a 20, il faut le faire et c'est obligatoire. On le fait, dit, oh Allah, ça c'est pour toi. Mukhlisan li wajhik ya Allah. Je le fais par sincérité pour toi. Même si c'est difficile, je reste ferme. Et face au péché, quand on baisse le regard, on se détourne, c'est pas juste qu'on se dit, ah non, là c'est Ramadan, je peux pas faire ça. Non. Allah me voit. Allah m'observe et donc je ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on appelle l'éthique du croyant. Et la troisième condition, les savants disent que ces actions doivent être accomplies avec ikhlas, c'est ce qu'on a dit, avec sincérité, avec le désir intense qu'Allah soit satisfait de nous. Ça c'est magnifique ça. Et les savants disent que ça c'est le premier pas qui va nous amener vers l'ihsan. Le plus haut degré de foi, c'est quand une personne accomplit les bonnes actions avec la conviction qu'il voit Allah et qu'Allah le voit. C'est comme si qu'il fait les actions et qu'il n'y a plus de frontières entre lui et Allah. Ça, c'est vraiment un état spirituel extraordinaire que les sahabas avaient atteint. Et le premier palier, on pourrait dire, les savants disent, c'est quand tu accomplis la bonne action, booste, excusez-moi le terme, mais booste au maximum ton ikhlas, ta sincérité. Tu dis que, oh Allah, je fais ça pour toi. C'est presque qu'on le dit à voix audible, oh Allah, cette salah, c'est pour toi, oh Allah, cette lecture du Coran. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête, d'accord? Oh Allah, ça c'est pour toi, liwajhik ya Allah. Donc, les savants disent que les faire avec sincérité et avec désir de changement. Et quand on dit désir de changement, c'est avoir l'intention de créer un renouveau dans notre vie. Prendre un nouveau départ dans notre vie, ce qui nous amène vers le terme plus connu, al-istiqama. Al-istiqama, être ferme dans les bonnes actions qu'on démarre en ce moment, ou qu'on prend l'habitude de faire, ou qu'on le fait avec plus d'intensité durant le mois béni. Ainsi, quand je respecte ma journée d'abstinence pour Allah, ben je m'engage également à respecter mes autres engagements envers Allah Azza wa Jal. Ainsi, quand je patiente debout dans la prière du Tarawih, pour 20 unités de rak'at, 20 unités de prière, ou que je viens 5 fois, alhamdoulilah, par jour à la masjid pendant le mois béni, je dois faire l'intention aussi d'être régulier dans mes 5 salats toute l'année. Après le mois béni de Ramadan. Ça, c'est l'éthique du jeûneur. Également, quand, l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, je contrôle mon regard ou ma langue ou je m'éloigne d'un péché, je dois pas me dire que je le fais par respect pour le mois sacré, là, wallah. Mais je fais un travail, c'est un travail que je fais sur moi-même pour me défaire définitivement d'un péché qui m'empêche de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est une question de relation avec Allah. C'est une question de proximité avec Allah qu'on essaie de construire, ou une question d'éloignement auprès d'Allah qu'on essaie de déconstruire à travers le mois de Ramadan. Donc, chers frères, en conclusion de ce premier point, prenons le temps d'analyser notre parcours. Ça, c'est extrêmement important. Il y en a ceux qui foncent, qui accomplissent, qui cumulent. C'est très bien. Il vaut mieux accomplir de bonnes œuvres que de ne rien faire, sans le moindre doute. Mais en même temps qu'on accomplit de bonnes œuvres et qu'on s'efforce de bien faire, il est important, à un moment donné, de s'arrêter et de faire une analyse. On analyse qu'est-ce que j'ai accompli, le facteur temps, mes efforts et ce que je sais réellement du mois de Ramadan. Et de cette façon, je vois, est-ce que j'ai l'éthique du jeûneur en moi? Et est-ce que dans chaque bonne action que j'accomplis et dans chaque péché dont je m'éloigne, est-ce que je retrouve la sincérité pour Allah et l'intention de changer ma vie à partir de ces instants? Si je retrouve ces conditions, alhamdoulilah, c'est un bon Ramadan. Si je ne retrouve pas ces conditions, j'ai encore un peu de travail à faire. Je dois garder la quantité de bonnes actions, mais recadrer et renforcer la qualité, parce que le plus important, c'est la qualité. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte des gens qui sont pieux. Et on doit retrouver ces critères de ikhlas et de taqwa, de piété et de sincérité dans nos bonnes actions et dans notre Ramadan. Ainsi, ikhwani fillah, mes chers frères en islam, quand on parle d'analyse, maintenant on passe à un degré, à un autre cap, quand on doit prendre le temps d'analyser notre parcours, et pas uniquement maintenant ce qu'on a fait de bien durant le mois de Ramadan. Ça, c'est une première étape, pour voir si on est dans le vrai, comme on dit. La deuxième étape, c'est d'analyser notre vie, d'analyser qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que les bonnes actions durant le mois béni, subhanallah, tout le monde accomplit. Vous avez juste à regarder la masjid à l'heure, on parle même en un jour de semaine, en dehors du jour de Jumu'a, la masjid, peut-être le salat, elle est remplie, mashallah. Il y a plein de gens qui sont dévoués, qui font de bonnes œuvres pour Allah Azza wa Jalla. Je ne suis pas le seul. Donc, je dois dépasser l'analyse uniquement du mois béni. Je dois être capable d'analyser hayati, ma vie. Ikhwani fillah, c'est un constat. Nous sommes très souvent spectateurs de notre vie. Nous sommes très souvent spectateurs de ce qui se passe. Et notre vie, elle est très souvent axée sur des devoirs. Ça peut être devoir professionnel, ça peut être devoir par rapport à ma famille, mon engagement, et les plaisirs. C'est-à-dire on a des moments de stress, de travail intense où on va produire, et il y a des moments où on essaie de se détendre, c'est-à-dire les plaisirs, les loisirs. Et les deux, c'est important, sans le moindre doute. Mais entre cette alternation entre les moments de engagement personnel et les moments de détente, ben, il y aura une interruption une fois par an, ce sera la venue du mois de Ramadan. Mais c'est pas ça la vie du croyant. La vie du mu'min salih, c'est pas celui qui durant toute sa vie, il se consacre à sa famille, à son travail et à ses engagements personnels, et ensuite il décompresse pour pouvoir reprendre de bon pied le lendemain, et qui arrive le mois de Ramadan, maintenant il se dit que maintenant je passe en mode spirituel. C'est pas ça la définition de la vie du croyant. Ça, ce n'est pas une vie productive. On a vu tout à l'heure c'est quoi un Ramadan productif. Maintenant, on essaie de comprendre c'est quoi une vie productive. Parce que si notre conception, on parle de façon très claire, parce que l'objectif, c'est d'avancer. L'objectif, c'est d'essayer d'améliorer notre vie de croyant afin que lorsque je rencontre Allah Azza wa Jal, Allah est satisfait de moi. C'est l'objectif. L'objectif du Muballigh, l'objectif de la personne qui prêche, c'est de faire passer ce message, qui était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre objectif de Mustami, quand on écoute, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il va m'apporter quelque chose qui va me permettre de mieux organiser ma vie. S'il dit un truc que j'ai déjà entendu, que je connais, ok, ça va. Mais si c'est quelque chose qui peut m'aider, je dois essayer d'avancer, inshallah, dans ma haya, de dunya, par ce parole, par cette intervention. Donc, on revient à ce qu'on disait. Si ma conception de la vie, c'est effectivement mon engagement pendant 11 mois de l'année entre mon travail et ensuite les périodes de dépression où je vais, alhamdulillah, trouver un peu de temps libre pour moi, et que uniquement durant le mois béni, je m'investis pour Allah Azza wa Jal, clair et net, je passe à côté de ma vie. Parce que le hisab, le jour de Qiyamah, lorsqu'Allah Rabbul Izzah va juger les gens le jour de Qiyamah, le jugement ne portera pas sur 55 Ramadan. Le jugement, le jour de Qiyamah, ne portera pas sur 60 mois de Ramadan, mais sur chaque instant de ma vie. Chaque jour, chaque moment passé dans le hayat dunya. Les bonnes questions qu'on doit se poser, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on a fait réellement pour Allah? Qu'est-ce qu'on a fait, Ikhwan et Fillah, qui nous garantit une bonne mort? C'est ce qu'on demande tous, Husnul Khatima. Aujourd'hui, il y a une personne qui est décédée au port. Au mois de Ramadan, Yom al-Jum'a. Semaine dernière, pareil, c'est au Latanier, si je ne me trompe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Husnul Khatima. Nahkum al-Zahir. En apparence, c'est une mort. MashaAllah, c'est la meilleure des morts. Nous souhaitons, on entend une personne qui est décédée à Mecca ou dans le Hajj ou dans la Salah en accomplissant de bonnes œuvres, ou dans une période où la personne était dans une spirale positive, hein, de spiritualité. On appelle ça Husnul Khatima. C'est ce que nous souhaitons tous. Mais réellement, qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant comme action pour avoir une mort? Husnul Khatima. Qu'est-ce que j'ai accompli durant ma vie? Et là, je ne parle pas depuis 16 jours. Je ne parle pas durant le mois de Ramadan, mais depuis que je suis baligh, toute ma vie, qu'est-ce que j'ai accompli comme bonne action pour me protéger des azab al-qabr, pour me protéger des châtiments de la tombe? Chaque fois qu'on enterre un proche, on demande ces doigts qu'Allah lui protège des châtiments de la tombe. Mais dans quelques jours, dans quelques années, dans quelques décennies, je serai à sa place. Et je ne dois pas attendre que des gens demandent doigts pour moi. Je dois prendre des précautions, je dois faire en sorte que je me protège des azab al-qabr. Réellement, qu'est-ce que j'ai fait pour être protégé contre des châtiments de la tombe? Qu'est-ce que j'ai préparé pour ma vie de l'au-delà? Ces concepts qu'on parle de la tombe, la mort, l'au-delà, très honnêtement, et là aussi on a un discours très réaliste, ces concepts nous paraissent parfois irréalistes, inabordables. Comparés aux urgences du quotidien, quand vous avez votre feuille d'impôt sur le bureau, quand vous avez une entreprise à gérer, quand vous avez des devoirs envers votre épouse et vos enfants, mais ces concepts-là paraissent vraiment irréels. Et l'homme finit par les oublier. Et on se focalise sur ce qui nous entoure. Et c'est normal. C'est une faiblesse de la foi, mais on peut dire que c'est des choses qui arrivent. Parce que l'homme se base sur ce qu'il perçoit avec ses cinq sens. C'est la nature de l'être humain. Mais l'importance du Coran, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du rappel, et du rappel qui va être fait par les prêcheurs, les ulama, les savants, les fundis, c'est de rappeler que attention, ce que vous voyez, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas l'objectif. Alors des fois, on va se dire que oui, mais on toujours entend nous prendre la tête avec le même discours. Il parle de la mort, on a plein de travail, on a plein de choses importantes, et on nous parle de l'au-delà. Mais, subhanallah, de le Coran, c'est exactement le problème qu'Allah Rabbul Izzah soulève. Lorsque de le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Zuyyina linnasi hubbu shahawat min al-nisa'i wal-banin » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ça c'est quoi tout ça متاع الحياة الدنيا. Et sachez aux musulmans que والله عنده حسن المآب, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et dans ce verset, Allah Rabbul Izzah va parler de tout ce qui nous attire dans la vie de ce monde, tout ce que nous aimons. Tout est cité dans ce verset du Coran. C'est-à-dire que l'homme, à force de constater ce qui l'entoure, le cœur finit par s'y attacher. Et quand le cœur s'attache à ce qui nous entoure, le cœur se détache de la réalité de l'autre monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on parle de l'au-delà, ça nous paraît totalement décalage. On parle de discours irréalistes. On parle de discours plus en relation avec le quotidien, avec les faits de société. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ça, mais il y a un temps aussi pour se rappeler qu'on a un mawid ma Allah. On a un rendez-vous auprès de notre Seigneur. Et je dois me poser la question par rapport à ce verset. Est-ce que Shaitan m'a piégé? Est-ce que je fais partie de ces gens qui ont été piégés par Shaitan, qui a embelli pour eux la beauté de ce monde, Zuyyina linnasi hubbu shahawat? Ou alors, je fais partie de, subhanallah, de ces personnes à propos desquelles le prophète alayhi salatu wa salam a dit et qu'a qualifié comme étant clairvoyant. Ulul albab, ala basira, qawmi ya'aqiloun, qualifié de ce hadith comme étant un homme intelligent et clairvoyant. Le prophète me dit al-kayyis, c'est qui l'homme intelligent, le croyant qui est clairvoyant? Man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, c'est celui qui analyse en permanence chaque moment, chaque période, chaque étape de sa vie. Ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, muraqaba, on appelle ça une analyse de notre situation. J'ai 35 ans, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Oui, j'ai fait 2 hajj, d'accord. Oui, je connais le Coran par cœur. Bien. Oui, j'ai fait 20 Ramadan jusqu'à maintenant. C'est parfait. Mais ce sont là parfois des obligations ou des actions qui m'apporteront beaucoup de choses. Mais mon engagement pour Allah Azza wa Jal, où est-ce que j'en suis réellement? Et est-ce que je ne fais pas partie des gens qui se sont laissés tromper et qui consacrent l'essentiel de leur temps, de leur vie, pour les biens de ce monde? Ou alors je fais partie de cette élite qui, man amila lima ba'da al-maut, qui à chaque moment, il a le muraqabatullah, il pense à Allah Azza wa Jal. À chaque moment, il éprouve ce qu'on appelle al-muhasaba. Il fait son propre compte régulièrement. Il fait l'état des lieux, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah, et il essaie d'améliorer. Chaque jour, il essaie d'améliorer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, en islam, n'oublions jamais, ce sont là des paroles claires, des paroles très simples. On ne vous a pas amené un discours philosophique, on ne vous a pas amené un discours avec des mots compliqués. Ce sont là les termes du Coran, les messages les plus importants du Coran. Celui qui a compris, là, il n'a pas besoin d'écouter des bayans de 2 ans et demi ou de faire plein de choses. Il a compris, c'est un déclic. Ça, c'est tawfiq min Allah. Tawfiq min Allah qui te donne la possibilité de comprendre c'est quoi le facteur temps. Le facteur temps, c'est la chose la plus importante. Et celui qui maîtrise le facteur temps, il a tout compris. Et celui qui, avec le facteur temps, il connaît les promesses d'Allah concernant la relation entre le monde et l'au-delà, il a tout compris, il n'a plus besoin d'écouter 50 discours. Il a compris que « kullu nafsin dha'iqatul maut » que chaque âme goûtera la mort, et que à l'issue de cette vie, j'ai des comptes hisab à rendre auprès d'Allah. Et que quand je comprends le concept de temps, c'est-à-dire le hisab sur le temps, ce n'est pas le hisab sur le temps du Ramadan. C'est le hisab sur l'intégralité de ma vie. Celui qui a compris, qui a su faire le rapport entre ces deux paramètres, ikhwan fillah, c'est quelqu'un qui a tout compris de ce dunya et du akhira, et c'est quelqu'un qui est vraiment sûr, ala sirat al-mustaqim, et qui ne sera pas trompé par shaitan, inshallah, qui ne sera pas piégé par l'ostentation, ni par l'hypocrisie ou autre chose, parce qu'il a réellement compris, c'est un déclic, et on doit demander à Allah tawfiq de comprendre la réalité de ce monde et la réalité de l'au-delà. Donc je disais que, un verset que tout le monde mémorise, même si on n'est pas hafid al-Qur'an, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit al-Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah. Et la suite, c'est quoi? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. De ce qu'elle aura acquis. Quand on parle d'acquérir des actions, c'est les amals qu'on accomplit de ce monde, entre les bonnes actions et les mauvaises actions. On a fait un discours dimanche dernier, il y a une dame qui a posé une question à l'écrit. Que dire des personnes qui pensent que le plus important, c'est la foi? Iman est dans le cœur. Et du coup, ça c'est un waswasa de shaitan. Et du coup, la personne ne donne aucune importance au fait de se couvrir correctement, au fait d'accomplir ses prières, au fait d'avoir des relations correctes avec ses parents, avec son épouse ou son mari ou ses enfants et ainsi de suite. Iman, c'est dans le cœur. J'ai la ilaha illallah dans mon cœur, et arrivé le mois de Ramadan, je suis à fond dans la religion. Quand je vais Umrah ou Hajj, je suis à fond. Mis à part ça, j'ai ma vie normale. Ça c'est Kaïd, c'est Makro Iblis. Et de cette façon, Shaitan a détourné des générations et des générations du droit chemin, et qu'Allah nous protège. Notre objectif, c'est pas Wallahi l'Azim, c'est pas de compléter un Ramadan et que après le Ramadan 1436-2015, je suis fier de moi, je fais pas mal de bonnes choses. Là, wallah, mon travail, mon objectif, mon maqsad, c'est de compléter une vie de ta'a, une vie dans le droit chemin, que lorsque je meurs, lorsque Malik al-Maut prend mon âme, c'est l'ange de Rahma qui vient et qui m'annonce que Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et quand on m'amène pour le rusl, pour le bain mortuaire, mes bonnes actions soient auprès de moi. Et quand on me pose dans cette tombe qui est effrayante, je ne sais pas combien parmi nous sommes déjà descendus dans un qabr, c'est effrayant. Je pense qu'il n'y a pas un moment plus angoissant. Mais si je ne me trompe pas, c'est Saïd ibn al-Musayyib, un tabi'un, qui avait dit « La pire des nuits, c'est la première nuit que tu passes seul dans ton qabr. » Ajib. On a enterré un frère, et lorsqu'on repart le soir, il va dormir, il va rester seul, parce qu'il est parfaitement conscient. Il est conscient comme moi, je suis conscient. Sauf qu'il appartient à notre monde. Mais il ressent exactement les choses que nous ressentons. Donc cette première nuit passée de le qabr, c'est pour ça que je me prépare. C'est pour le moment où je vais être ressuscité et présenté devant Allah. C'est pas pour 30 Ramadan. Celui qui pense que je dois parfaire mon mois de Ramadan et que, après le Eid, je retourne à ma vie active et normale, je me trompe. Et je me trompe, mais c'est la pire des erreurs, parce que là, je fais partie des rafilines, des personnes insouciantes, qui ont un éveil de foi, mais qui, en dehors du mois de Ramadan, ils font preuve de rafla, d'insouciance, et là, il est urgent, urgent, wallahi l'azim, de revoir nos bases. Et Ikhwan fillah, le Ramadan, c'est un cadeau qu'Allah nous accorde. Allah accorde à cette umma pour nous permettre d'avancer un peu plus vite. Mais le jour des comptes, le jour des hisab, comme on l'a dit, c'est chaque instant de notre vie qui nous sera présenté. Chef, en islam, on a besoin d'intégrer les versets qu'on a cités tout à l'heure. Ce sont là des versets basiques. Et ce qui manque à notre umma, ça c'est un constat qu'on fait. Parce que les discours, subhanallah, on en a entendu beaucoup. Et on en fait, biiznillah, partout, mais on se rend compte que le croyant n'arrive pas à accrocher avec le din. Pourquoi on n'accroche pas avec le din? Parce qu'on ne comprend pas le Coran. Parce qu'il y a des versets qui nous passent sous le nez. On écoute. Diamant, on a bien lu ce soir. Il a terminé 20h55. C'est très bien. Ou cher Mouaïq, il a lu une lecture magnifique ce soir. Ou je suis Yad, je mémorise mon Coran au bout des doigts. Je peux faire Tarawih 20 rakat sans réviser. Bref, c'est notre conception du Coran. Mais chef, en islam, il n'a jamais été demandé à chaque mu'min d'être hafiz al Coran. Et il y a des gens qui ne connaissent pas le Coran, mais qui ont peut-être plus de valeur auprès d'Allah que ceux qui connaissent le Coran. Parce que le Prophète dit, Al-Quran, hujjatun laka wa alayk. Le Coran, soit il sera pour toi le jour des comptes, soit il va t'enterrer. Le Coran causera ta perte. La personne qui mémorise, mais qui ne met en pratique aucun des versets, ce Coran est un ilm qu'il détient et qui n'arrive pas à le mettre en pratique. Il y a des versets basiques, et on va essayer un jour de travailler dessus. Quels sont les versets basiques que chaque croyant doit comprendre? Pas forcément mémoriser. Et parmi cela, wattaqu yawman turja'una fihi illa Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa 'abdu rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. On s'efforce de les lire parfois quand il y a des discours, le mariage, pour que on prenne conscience que ce sont là les rendez-vous que nous avons avec Allah Azza wa Jal. Ce que nous pouvons, c'est de faire durant ce mois béni, c'est de créer une relation directe avec le Coran par le biais de l'étude du sens du Coran. On a la chance à la Réunion d'entendre un Coran kamil, le khatm, le Coran complet sur le musalla, chose qui n'est peut-être pas possible dans certains pays. Mais essayons de prendre un peu de temps, quitte à diminuer notre temps de lecture de 10 minutes, lisons un peu en français le sens des versets. À chaque fois qu'Allah, Rabbul Izzah, dit « Ya ayyuhalladhina amanu », c'est pour Ishaq, c'est pour Saïd, c'est pour Abdullah, c'est pour le musulman réunionné en 2015, c'est pour Abu Bakr al-Siddiq, c'est pour chaque personne, toute génération, toute époque, c'est « Ya ayyuhalladhina amanu », ceux qui ont la foi. Et nous devons répondre présent, nous devons comprendre qu'est-ce qu'Allah nous dit. Pratiquer sans comprendre ce qu'Allah nous demande, je pense que c'est, il y a des choses à revoir. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ibn Kathir rahimahullah fait un tafsir magnifique de celui qui met en pratique le Coran réellement. Il trouvera l'émancipation de sa vie, de ce monde, de sa vie spirituelle. Et permettez-moi de rajouter que quand on voit ce qui s'est passé il y a une semaine ou 10 jours en Isère, ce qui s'est passé avant Paris, ce qui s'est passé à Toulouse il y a quelques années, vous savez, si ces personnes lisaient réellement le Coran, ils n'auraient jamais accompli ça. Parce que quelqu'un qui lit le Coran, il voit le juste milieu, il voit la vérité, il comprend le message d'Allah. Et il ne lit pas un message de façon biaisée. Il ne détourne pas les versets. D'où l'importance pour chaque croyant, quel que soit notre niveau, de développer une relation avec le Coran. En 2 minutes, ikhwani fillah, un dernier message qu'on peut faire passer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de donner la possibilité de tawfiq, de comprendre ce qu'on a dit et que la réalité du taqwa pénètre nos cœurs, inshallah. Mes chers frères, notre communauté, notre umma se diversifie depuis à peu près 50 ans. Et nous avons des musulmans, alhamdulillah, de différentes origines. Ainsi, on voit parfois des divergences d'opinion. C'est des choses qui arrivent. Il y a parfois des fractures, des anciens et les jeunes. Il y a des fois, on dit, les savants, ils sont rigoristes. Il y a une fracture, parfois, des religieux, les laïcs. On voit, il y a des dissensions, parfois, qui naissent. Mais ce qui nous unit, d'une manière générale, la chose qui unit chaque personne présente de cette majid et chaque personne qui écoute ce discours, c'est le iman, la foi. Et notre préoccupation, notre premier fikar à nous tous, c'est le iman de nos enfants. Là-dessus, il n'y a pas de divergence d'opinion. Que je décide de garder une barbe de 35 cm, ou je conçois, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de garder la barbe dans la société dans laquelle nous vivons, on ne va pas entrer dans les détails, mais on a un fikar commun. On a tous fikar pour nos enfants. Et quand on voit la diversité des parents qui amènent les élèves de nos médersas, on voit qu'il y a des religieux, il y a des gens qui ne se considèrent pas comme religieux. Mais on a tous ce souci. Je veux que Mohammed, Ishaq, Abdullah, Fatima, Aïcha, mes enfants soient un jour la fraîcheur de mes yeux. Qu'ils deviennent de bons musulmans. Qu'ils lisent le Coran. Qu'un jour, quand je serai mort, ils viennent lire sur mon qabr. Ça, c'est une idée commune. C'est quelque chose qui nous réunit. Et mes chers frères, en islam, vous savez, ce souci commun, on peut voir sa concrétisation à travers le islam que nous allons transmettre à nos enfants dans les années à venir. Et cela passe par un cadre. Le cadre, c'est cette masjid. Le cadre, c'est cette madrasa. Le cadre, c'est ce maqbara, le cimetière. Le cadre, c'est tout ce que nos abas, nos ajdas, nos grands-parents, bi'idhnillah azza wa jal, ils ont amené, ils ont apporté. Et l'investissement qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait lorsqu'ils sont partis de néant, ils ont investi l'argent qu'ils commençaient à peine à gagner, ils vivaient dans des conditions parfois précaires, mais ils ont fait ce sacrifice pour le dîn, ce qui nous permet de faire un discours à l'abri avec les ventilateurs, alhamdoulilah, dans des conditions que même les populations métropolitaines nous envient. Ce qui nous permet donc d'avoir ces conditions, c'est le mujahada qu'ils ont fait. On ne pourra jamais égaler le travail qu'ils ont fait, c'est impossible. Mais notre travail, notre mas'ouliya, notre responsabilité en tant que musulmans, en tant que réunionnais, en tant que héritiers de ce que nos parents nous ont donné, nous ont légué, c'est la préservation du patrimoine et la transmission de ce patrimoine à nos enfants et à nos petits-enfants. Et Ikhwani fillah, vous savez que la meilleure des aumônes, la meilleure des sadaqas, c'est celle que nous allons donner durant le mois de Ramadan, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths, on ne va pas les citer. On avait demandé au prophète d'Allah, la meilleure des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, afdalus sadaqa, la meilleure des sadaqa, c'est celle que nous donnons durant le mois de Ramadan. Si on est convaincu, et nous sommes tous convaincus, j'espère, que c'est mon devoir, ça repose pas sur telle famille, ça repose pas sur diverses tribus, ça repose sur chaque individu. Si on est conscient, on est convaincu qu'il est de mon devoir d'assurer l'islam de mon fils, de ma fille, de mes enfants, de mes petits-enfants, et que j'ai besoin de ces thawab, des récompenses auprès d'Allah, et que c'est durant ce mois qu'on aura le maximum de récompenses, alors, ikhwani fillah, faisons la relation entre ces deux paramètres et produisons. C'est maintenant que ça se passe. Il nous reste 14 jours pour faire un bond, pour faire un saut de géant, mashallah, spirituel, auprès d'Allah, en obtenant beaucoup de récompenses par le biais de la sadaqa. Et la meilleure des sadaqa qu'on pourrait faire, c'est envers la population de notre pays, notre île que nous aimons. Et nos masajid qui nous accueillent. Peut-être que, en donnant pour cette masjid, c'est peut-être, je suis en train de cotiser pour la masjid à laquelle mon enfant, mon petit-enfant, il va faire salah. Je suis en train d'aider peut-être la madrasa qui se construit, ou la tanié, celle qui va se construire à Sainte-Clotilde, celle qui est en train de, d'être achetée au Moufia, à Saint-Denis, dans tous les quartiers des projets. Je suis en train d'investir dans le lieu où mon petit garçon va apprendre le mot Allah, où il va apprendre à lire Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est un devoir. Ça, c'est un engagement. Et, Inch'Allah, on encourage chaque personne présente de faire un geste. Il y en a qui ont fait beaucoup, mais qu'on fasse encore plus, qu'on construise l'avenir de notre dîn, on le stabilise, qu'on le transmet à nos enfants et qu'on garantit un islam pour nos enfants et qu'on construise notre akhirah par le biais de sadaqa, qu'Allah nous accepte, nous donne le tawfiq, la possibilité de le faire. Ma tawfiq illa billah, subhanahu rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. On fait les sunnans et on reprend, inshallah.